Coucou, c'est Martine. Merci de choisir Radio Plus pour accompagner votre début de semaine. Jean de la Bruyère disait « Ceux qui emploient mal leur temps sont les premiers à se plaindre de sa brièveté ». Chaque lundi, nous déclinerons ensemble ce mot « temps » à la fois pour le combler, pour le passer agréablement, pour en faire quelque chose d'utile, pour ne pas le perdre, pour quelquefois le rattraper, pour ne pas le trouver long, pour apprécier l'éphémère, pour le rendre fort aussi, pour le rendre moderne mais pas trop, pour en parler au passé, pour le tromper, pour le tuer, pour qu'il ne soit jamais maussade. Bref, chaque lundi de 9h à 10h, je vous dirai comment rester dans l'air du temps en le prenant comme il vient. C'est sur Radio Plus, votre radio. Arrive le moment de penser aux vacances, cela semble être primordial pour certains qui n'hésitent pas à tout larguer pour aller se faire rôtir, farniente oblige. Et pourtant, on n'est pas bien chez nous, dans notre nord, où pour l'instant il ne fait pas encore trop chaud et où nous avons la chance d'avoir eu quelques pluies pour rafraîchir et arroser la terre. Et oui, des vacances chez soi avec son chien et son chat qui ne feront pas partie de tous ces abandonnés de l'été, avouons que cela peut être très bien. Alors on ne joue pas au touriste qui va ennuyer les autres et polluer tous ces lieux dits touristiques, justement, surtout que notre région regorge d'endroits magnifiques. Et on peut d'ailleurs en profiter pour remettre ses chaussures de randonnée et refaire un petit peu d'exercice. Allez, bonjour à vous et très bonne journée.
Trois petites notes de musique vont plier boutique au creux du souvenir. C'en est fini de leur tapage, elles tournent la page et vont s'endormir. Mais un jour sans crier gare, elles reviennent en mémoire. Toi, tu voulais oublier un petit air galopé dans les rues de l'été. La 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 la, je vous aime, chantait la rengaine. La la, mon amour, des paroles sans rien de sublime, pourvu que la rime amène toujours une romance de vacances qui lancinante vous relance. Vrai, elle était si jolie, si fraîche, épanouie, et tu ne l'as pas cueillie. Elle t'offrait une chanson. rime avec sa chèvre ne tienne rime à rien. Fini avant qu'il commence le temps d'une danse, le temps d'un refrain. Petites notes de musique qui vous font la nique du fond du souvenir. Lève d'un cruel rideau de scène sur mille et une peines qui ne veulent pas.
Greco sur Radio Plus. Et alors la musique, eh bien ce sera tout à l'heure à partir de 10h avec Kaléidoscope. Avant cela, aujourd'hui dans l'air du temps, Jean-Louis Ouette, président de l'Extrême Nature, sera avec nous pour notre rubrique Saletant sur la planète. Quelques questions à lui poser avant de lui accorder un petit peu de repos en juillet et en août. Et puis justement, nous parlerons aussi un petit peu jardinage avec lui en l'absence de Bertrand Trinel, parti sous les cieux d'Alsace. Et puis Jean-Louis laissera ensuite sa place à une maman, vous l'entendrez, pleine de pugnacité et d'amour, qui se bat pour sortir son petit garçon de son autisme. Anne Renard a besoin de votre aide, non pas de votre argent, mais d'un tout petit peu de disponibilité pour aider son petit Romain à se reconnecter. Et elle nous dira comment, et nous l'écouterons bien sûr avec beaucoup d'attention.
Leurs yeux tombaient sur moi, violents comme des grêlons, tombaient comme des soldats qui mouraient sur mon front. Leurs yeux tombaient sadiques dans les miens qui coulaient, tombaient comme des verdicts, tombaient comme des couperets. Leurs yeux tombaient sur moi, puis se tournaient vers lui. Lui, ce tout petit cas, lui et sa maladie. Lui, ce tout petit gars au regard indécis, au visage béat, au chemin qui dévie. Ils ont scruté mes gestes, filmé mon impuissance, jugé que ma tendresse était trouée d'absence. Ils m'ont pointé du doigt en étudiant mon fils, conclu que c'était moi la mère de son autisme. Leurs yeux tombaient sur moi comme tombent les nuits. J'étais là comme un rat et lui comme une souris. Dans ce laboratoire plein de savants incultes qui, faute de savoir, m'inventaient des insultes. Car sur la pellicule où je jouais avec lui, oui, sur la pellicule passée au ralenti, ils ont trouvé des signes perdus dans mon non-dit, m'ont décrété indigne, m'ont déclaré ennemi. Leurs yeux pesaient sur moi, moi qui cherchais de l'aide, des réponses au pourquoi, des promesses de remède. Leurs yeux tombaient profonds et j'étais leur ravin. C'était moi la raison du trouble de mon gamin. J'aurais rendu malade avec ma fibre faible, à force d'être froide, on fait des enfants tièdes. Pendant des tas d'années, on y a presque cru. Pour un autiste né, une mère était déchue. Leurs yeux tombaient sur moi, et tout ce que je me rappelle, c'est que j'étais la proie de leur pupille cruelle. On m'accusait à tort et je me débattais sous leurs yeux qui plus fort tombaient, plus ils me regardaient et moins j'aidais mon fils. Leur regard m'encerclait comme on encercle un vice. Follement, je me révoltais devant tant d'injustices. Mais sottement, j'agissais comme il voulait que j'agisse. Je perdais mes énergies à plaider sans convaincre, pendant que mon petit attendait mes étreintes. Mes yeux tombaient sur lui comme des soldats blessés, tombaient comme la pluie d'un ciel tout embrouillé. Bien sûr, leur théorie s'est écroulée ensemble. Il y eut d'autres souris filmés sous d'autres angles. Ce n'était pas ma faute si mon enfant chéri n'était pas comme les autres. Et d'ailleurs, aujourd'hui, lorsque mes yeux s'appuient sur lui qui me rend fière, cet homme qui me sourit de tout son grand mystère, moi je sais qui je suis par rapport à mon fils. Je suis sa mère à lui, pas celle de son autisme.
Oui, et faisons attention à notre regard qu'on porte quelquefois sur les gens, bien à tort. C'était Linda Lemay sur Radio Plus. Alors, l'enquête dans l'air du temps, et bien tout à l'heure avec Jean-Louis Ouattet, nous parlerons sans doute des insectes pollinisateurs, mais il sera peut-être surpris de savoir que 4 neurones suffisent aux abeilles pour pouvoir se livrer au calcul. Et oui, des chercheurs britanniques et allemands s'en sont rendus compte en essayant de comprendre comment elles parvenaient à distinguer jusqu'à 6 objets différents malgré un cerveau rudimentaire. Alors, ils ont construit un petit réseau de neurones virtuels afin de simuler comment une abeille choisit parmi plusieurs fleurs celle qui contient le plus de gouttes de nectar. Et alors, surprise, eh bien, 4 neurones suffisent aux abeilles pour faire leur choix. Et alors pour nous, monsieur, combien nous faut-il de neurones pour faire le bon choix, là, savoir ?
À la vitesse où s'améliore l'espérance de vie des seniors, antibiotiques, pénicilline, dans pas si longtemps. J'imagine.
Si votre cœur bat la breloque, il y en a des milliers en stock. Si c'est le cerveau qui déraille, voilà des neurones en pagaille. Se jeter du 30e étage, pas de quoi en faire un fromage. On sort la trousse et on répare, comme l'homme qui valait 3 milliards. Immortel, immortel, les femmes, les hommes. Éternel, éternel, ad libitum. Même les gros fumeurs se taperont la frime. I've got you, un masque nicotine.
À ceux qui pensent, c'est trop de la balle. La vie ad vitam, éternel. Je leur réponds. Faites attention, y'a un revers à la médaille.
Faudra bosser 7 jours sur 7 pour pouvoir payer les retraites de nos vieillards en pleine santé qui brontent sur les croisières paquets. On siphonnera les océans pour pallier à la crise du logement. Plus de vacances au bord de la mer, dans les assiettes plus de salmonière. Le monde à l'envers. Éternel, éternel, la galère. Derrière nous, des tonnes de souvenirs. Et devant, un futur à n'en plus finir. Immortel.
Louis Chédide sur Radio Plus. Alors, nos neurones sont bien en place pour écouter à présent Jean-Louis Ouattet et ce pour notre rubrique Sale temps sur la planète.
Sale temps sur la planète.
Et oui, les signes annonciateurs du naufrage s'accumulent. La solution ? Opter pour la force des passions et mener le combat nécessaire. Et alors, on revient aujourd'hui sur quelque chose dont on a déjà parlé, c'était en novembre 2016, le dioxyne de titane. Et oui, on en reparle pour évoquer les avancées concernant cet additif E171. Alors, souvenez-vous, on avait abordé ce sujet parce que cet additif E171, eh bien, on le retrouve souvent dans les bonbons et à cette époque, nous avions mis les parents en garde. Jean-Louis Ouattet, bonjour.
Bonjour Martine.
Lorsque nous avions traité ce sujet, Jean-Louis, vous nous aviez expliqué que le dioxyde de titane fait partie des nanoparticules et qu'en fait c'est un additif alimentaire qui rend les aliments, les bonbons, les chewing-gums, etc., etc., plus blancs et plus brillants. Et alors vous aviez bien insisté sur les dangers que cet additif représente et vous allez nous les rappeler.
Oui, il faut savoir que dans chaque année dans le monde, il y a 8 millions de tonnes de dioxyde de titane qui sont disséminées dans des produits de consommation courante. C'est des particules microscopiques et utilisées dans divers domaines, en cosmétique, c'est utilisé dans les produits d'hygiène, dans les secteurs de la construction, etc. Il y a énormément de produits qui contiennent du dioxyde de titane. Il est utilisé quand même à grande échelle. Et il faut savoir que la dangerosité du dioxyde de titane est surtout causée par son échelle nanométrique, hein, c'est de la taille d'un virus. Hein. Donc c'est des particules extrêmement petites qui ont justement la capacité de franchir des barrières physiologiques, les intestins, le cerveau, les reins, et de pénétrer dans l'organisme et de s'y accumuler. Donc il y a des effets toxiques qui sont documentés, comme des dysfonctionnements d'ADN, de stress inflammatoire, de mort de cellules, etc. Donc ça a été classé cancérigène probable par le CIRC en 2006. Et c'est quand même des substances dangereuses. Donc justement, il y avait quand même une grosse attente sur ces nanoparticules.
Et il y a d'ailleurs une étude qui a été faite en 2017.
Oui, il y a une étude qui a été menée par l'INRA de Toulouse. Alors, elle a identifié chez l'Aura un danger associé à un colorant alimentaire courant, hein, donc ce dioxyde de titane. Les résultats préliminaires justifient d'autres études, hein, et puis des analyses de risque chez l'homme. Elle a été conduite donc chez des rats qui ont été exposés à des doses proches de l'alimentation humaine. Et on s'est aperçu que ça franchissait la barrière intestinale et ça passait dans le sang au bout d'une semaine. Donc, avant de rejoindre, c'est vrai, ça rejoint la circulation sanguine. Et donc, ça va se loger jusqu'au noyau des cellules immunitaires. Ça provoque aussi un affaiblissement des réponses immunitaires dans l'intestin, donc avec des prédispositions à l'inflammation dans le reste de l'organisme. Et puis ça a des effets, des effets sur les stades précoces au niveau des cancers colorectaux au bout d'une centaine de jours. Donc il y a lieu quand même de s'inquiéter après cette étude sur les... ce dioxyde de titane.
Alors justement, pourquoi nous revenons sur ce sujet ? Eh bien tout simplement parce que, heureusement, depuis votre intervention de novembre 2016, les choses ont évolué et dans le bon sens, à savoir qu'à partir du 1er janvier 2020, cet additif E171 sera interdit. Alors c'est une première victoire, certes, mais on constate quand même, Jean-Louis, qu'on peut mourir à petit feu, hein, parce que ça ne dérange pas plus que ça.
Hein. C'est sûr que c'est des choses qu'il faut quand même du temps pour que ça bouge. Hein. Et suite donc à la publication d'un nouvel avis de l'ANSES, et puis constatant aussi le manque de données sur la toxicité du dioxyde de titane. Par principe de précaution, les ministères de la transition écologique et de l'économie ont annoncé donc récemment, le 17 avril 2019, que le dioxyde de titane sera finalement bien interdit dans les denrées alimentaires à partir du 1er janvier 2020. Donc c'est un arrêté qui suspend la mise sur le marché des aliments contenant cet additif. Alors c'est les plats préparés, les bonbons, chocolat, chewing-gum, les sauces. Donc ça a été signé et publié. Tout ça parce que de nouvelles analyses qui ont été effectuées n'ont pas permis d'écarter le risque cancérigène lié au dioxyde de titane. Alors cette nouvelle restriction, ça fait partie de la loi alimentation, mais ça ne concerne pas les cosmétiques, dont les dentifrices et les médicaments. Alors, ça s'applique pas aux médicaments parce que bon, le gouvernement a souligné que le bénéfice apporté par les médicaments était supérieur au risque lié au dioxyde de titane.
D'accord.
Donc, on va mettre des points d'interrogation.
Oui, on va mettre des points d'interrogation en...
Alors, certains industriels de l'alimentaire ont d'ores et déjà annoncé qu'ils retiraient cet additif de leurs produits, tandis que d'autres commencent à mettre en place un processus de retrait progressif.
D'accord. Et puis, on connaît bien les lobbies pour les laboratoires pharmaceutiques, n'est-ce pas?
Oui.
Voilà, c'est dit. En fait, Jean-Louis, encore une fois, il faut que nous nous prenions en main, et comme on le disait déjà la dernière fois, eh bien, il nous faut bien lire les étiquettes.
Ah ben oui, il faut bien lire les étiquettes, ça c'est certain. Si on prend par exemple les dentifrices, le dioxyde de titane concerne les dentifrices. L'association Agir pour l'environnement explique qu'elle a étudié 408 dentifrices, dont 59 destinés aux enfants. La moitié des dentifrices pour enfants contenaient du dioxyde de titane. Donc au total, 271, donc c'est les deux tiers des dentifrices en contiennent, et dont 25 produits bio. Donc l'association, donc Agir pour l'environnement, note aussi que aucun des 271 dentifrices ne précise sur son emballage. C'est pour ça que bien lire les étiquettes, c'est pas si simple que ça.
Tout à fait.
Puisque sur l'emballage, le dioxyde de titane qui est présent, qu'il est à l'état nanoparticulaire, le règlement européen sur les cosmétiques exige que l'étiquetage porte la mention nano si les particules font moins de 100 nanomillimètres. Donc c'est pas noté. Et donc l'association Agir pour l'environnement a mis en place sur son site un petit logiciel, et vous allez vous rendre sur le site de l'association Agir pour l'environnement si le dentifrice que vous choisissez contient ou non du dioxyde de titane. Donc ça, c'est un moyen pour les dentifrices. Pour d'autres produits, c'est beaucoup moins évident.
Tout à fait, oui, oui. Bon, soyons vigilants, mais ça n'est pas...
On est sur la bonne route, mais
oui.
Je pense que le pouvoir des consommateurs est fondamental là-dessus, puisque le rapport de force, c'est l'argent, C'est-à-dire que si les produits, l'achat diminue, forcément que les industriels vont commencer à réfléchir. Et je pense que les consommateurs ont aussi, sur ces types de produits, une petite part de responsabilité, parce qu'on est toujours à l'achat des choses les plus blanches possibles. Et puis finalement, on s'aperçoit que derrière tout ça, il y a des produits très dangereux.
Et puis tout simplement aussi parce que les gens ne savent pas, tout simplement.
Non, on ne sait pas,
on
n'a dit
pas.
Et manque d'informations.
Bien sûr. Et c'est pour ça qu'on est là, Jean-Louis.
Voilà.
En tout cas, Jean-Louis, merci pour cet éclairage dans nos choix d'achat. Et puis si vous permettez, je vous garde avec moi pour notre rubrique de jardinage bio et sur l'absence de Bertrand Drinel, qui prend ses vacances en juin pour mieux se consacrer en juillet et en août aux préparatifs de la fête de la tomate qui a lieu chaque année début septembre à Verskerk, organisé bien sûr par son association des paysages, des jardins et des hommes. Alors Jean-Louis, en ce moment, disons que la semaine dernière, pluie et soleil ont alterné et bien souvent est apparu l'oïdium. Alors quelles sont les techniques préconisées par votre association pour lutter contre ?
Alors bon, faut savoir d'abord que l'oïdium, c'est une maladie cryptogamique, donc c'est un champignon, c'est une maladie familière des jardiniers. Hein. Ces champignons peuvent s'attaquer à très nombreuses plantes, hein, qu'ils soient du potager, du verger ou du jardin d'ornement. Bon, c'est aussi appelé blanc, hein, puisque ça se caractérise par un feutrage blanc qui change d'apparence suivant les végétaux qu'il touche. Et donc, on peut en faire facilement le diagnostic en observant l'apparition sur le dessus des feuilles de ce feutrage blanc qui va s'étendre ensuite à toute la feuille, la déformer, la sécher, puis sur tout le reste de la plante. Donc, sans traitement, la plante potagère, par exemple, va mourir, l'arbre fruitier va voir ses fruits stopper leur développement. Alors, savoir que l'oïdium, pour se nourrir, ça émet des petits suçoirs à l'intérieur des feuilles ou des fruits. Et puis, la phase d'incubation est très courte et son développement, son filament mycélien, c'est le champignon, hein, se développe assez rapidement. Donc, il faut savoir que aussi les spores sont dispersées par le vent ou la pluie et donc il faut agir quand même assez rapidement. Donc, les actions pour éviter son apparition, il faut penser d'abord aux mesures préventives. Hein. Lors de la plantation, par exemple, il faut espacer suffisamment les plants pour éviter qu'ils soient en contact. Il faut nettoyer régulièrement autour de la plantation, en enlevant des herbes et des feuilles. Il faut dégager au sécateur, par exemple, le centre des rosiers. Et puis, à l'apparition des premiers signes de la maladie, il faut supprimer aussitôt les parties des plantes qui sont atteintes, les brûler pour ralentir justement la progression de la maladie. Et surtout, ne pas arroser les feuilles par forte chaleur. Il faut plutôt arroser les pieds, par exemple, je pense aux tomates, arroser le pied de la tomate, mais éviter de mettre de l'eau sur les feuilles, et puis choisir plutôt en fin de journée ou en tout début de matinée. Alors maintenant, traitement, il y a plusieurs traitements. Il y a le soufre, hein, qui est dont l'action est reconnue comme une action désinfectante et fongicide. C'est une action qui est connue depuis l'Antiquité. Et donc, c'est le traitement de choix contre l'oïdium. Bon, il faut savoir qu'il est autorisé dans les cahiers des charges des productions agricoles bio. Il est peu nocif pour les humains, les animaux, les abeilles. Donc, il est vendu sous forme de poudre à mouiller, qu'on dilue dans l'eau suivant les proportions indiquées. Il faut bien quand même respecter les doses, parce que ça pourrait quand même, si on abuse, ça pourrait être dangereux pour la plante.
Bien sûr.
Donc, c'est un traitement qui est préventif. Et puis aussi, on a les traitements à base de décoction. Alors, décoction de prêle. Hein. La prêle, c'est une plante, ce qu'on met entre guillemets une mauvaise herbe, une adventice. Hein. Mais c'est aussi une plante qui est très riche au jardin. Hein. Avec la décoction de prêle, on peut, avec cette décoction, traiter justement les plantes qui commencent à être atteintes de l'oïdium. C'est très efficace, la prêle. C'est efficace aussi pour le mildiou, hein, pour les pommes de terre et les tomates. Donc, c'est quand même quelque chose de très intéressant au jardin, bien que les jardiniers le voient d'un mauvais œil, hein, puisque c'est classé comme plante
indésirable, on va dire.
Et puis, une autre chose, c'est l'huile essentielle d'ail. L'ail est très efficace et son action est reconnue, donc on verse un peu, une vingtaine de gouttes d'huile essentielle dans un peu de savon noir et puis dans un litre d'eau de pluie. Et c'est aussi efficace pour lutter contre l'oïdium. Donc il y a des techniques préventives et puis des techniques aussi. Alors je dis pas que les décoctions vont éradiquer complètement l'oïdium, mais ça va le stopper.
En tout cas, et puis on rappelle aussi, Jean-Louis, que la faune et la flore naturellement présentes dans nos jardins contribuent à la biodiversité et qu'il est important de les protéger en utilisant justement des techniques respectueuses de l'environnement. Et alors, en parlant d'environnement, dans le cadre du projet Mieux connaître et sauvegarder les pollinisateurs des bords de champs porté par votre association L'Étrenne Nature avec la Chambre d'agriculture de région Nord-Pas-de-Calais et Campagne Vivante, le CPIE Chaîne des Terrils, Fredon, vous venez de connaître une belle réussite là.
Oui, bah c'est de, en fait, on a fait des expérimentations de semis. Le but, c'est de faire des semis de bandes fleuries et puis d'étudier après eh bien la présence des insectes pollinisateurs sur ces bandes fleuries et qui seront autant d'auxiliaires pour les cultures. Donc, ça n'est pas qu'un but esthétique, hein, c'est aussi attirer les insectes pollinisateurs. Et donc, oui, on a fait un semis. On a eu des difficultés l'an dernier avec notamment la période de sécheresse. Et donc, on a dû recommencer certains semis. Et là, on a eu une belle réussite à Richebourg, notamment chez Monsieur et Madame Coupé, où les bandes fleuries ont bien donné. Et notamment des coquelicots et des pleuets qui donnent un éclat particulier à ces bandes fleuries.
Mmh. Et puis on peut bon, sans parler peut-être de bandes fleuries, on peut faire la même chose chez soi.
Ah bah tout à fait, hein, on peut faire des petits carrés de prairies fleuries chez soi, c'est tout à fait possible et c'est intéressant pour les insectes pollinisateurs. Donc, tout à fait. Alors, faire attention quand même aux semences qu'on va acheter. Hein. Il faut quand même des semences qui sont quand même garanties parce que, bon, celles qu'on trouve généralement dans le commerce, ça donne des fleurs esthétiquement, c'est bien, mais pour les insectes, ça n'apporte rien. Il n'y a ni nectar ni pollen. Donc, faire attention quand on choisit, autant choisir des semences de qualité.
Tout à fait. Jean-Louis, merci. Et puis à présent, eh bien, je vais vous laisser vous reposer tout juillet et tout août. Un repos bien mérité, on va dire. Hein.
Voilà.
Avec donc tous mes remerciements pour vos interventions, vos mises en garde, vos éclairages et puis vos explications qui nous aident à faire, eh bien, on va dire le bon choix tout simplement.
Bah, à faire avancer les choses, on l'espère.
Tout à fait.
Donc, je vous souhaite de bonnes vacances.
Bonnes vacances à vous, Jean-Louis. Merci.
Voilà. Merci. À bientôt.
À bientôt.
Si tu es né dans une cité HLM, je te dédicace ce poème en espérant qu'au fond de tes yeux ternes, tu puisses y voir un petit brin d'herbe.
Et les mains vont faire la part des choses.
Il est grand temps
de faire une pause, de troquer cette vie morose
contre le parfum d'une rose. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal. Crie le bien fort, use tes cordes vocales. Pas de boulot,
pas de diplôme,
partout la même
odeur de zone. Plus rien n'agite tes neurones,
pas même le shit que tu mets dans tes cônes. Va voir ailleurs,
rien ne te retient.
Va vite
faire quelque chose de tes mains.
Ne te retourne pas
ici, tu n'as rien.
Et sois le premier à chanter ce refrain. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal. Crie le bien fort, use tes cordes vocales.
Assieds-toi
près d'une rivière,
écoute le coulis de l'eau
sur ma terre. Dis-toi qu'au bout, il y a la mer,
et que ça n'a rien d'éphémère.
Tu comprendras alors que tu n'es rien comme celui avant toi, comme celui qui vient. Que le liquide qui coule dans tes mains
te servira à vivre jusqu'à demain matin.
C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal. Crie le bien fort, use tes cordes vocales.
Assieds-toi près d'un vieux chêne et qu'on parle à la race humaine. L'oxygène et l'ombre qu'il t'amène, mérite-t-il les coups de hache qui le saigne? Lève la tête, regarde ses feuilles, tu verras peut-être un écureuil qui te regarde. De tout son orgueil,
sa maison est là, tu es sur le seuil. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal. Crie le bien fort, use tes cordes vocales. Hey, crie le bien fort, use tes cordes vocales.
Peut-être que je parle pour ne rien dire, que quand tu m'écoutes, tu as envie de rire. Et si le béton est ton avenir, dis-toi que c'est la forêt qui fait que tu respires. Et j'aimerais pour tout les animaux, que tu captes le message de mes mots. Car un lopin de terre, une tige de roseau, servira la croissance de tes marmots. Servira la croissance de tes marmots. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal. Crie le bien fort, use tes cordes vocales. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal. Crie le bien fort, use tes cordes vocales. Hey!
Le groupe Trio sur Radio Plus. Alors, comme le dit Joseph Chovanec, l'autisme est une culture différente. Joseph Chovanec est docteur en philosophie, ancien élève de Sciences Po Paris et personne avec autisme. Alors, il vient de sortir « Comprendre l'autisme pour les nuls ». Et Joseph Chovanec donne justement des conférences sur l'autisme et il explique très bien que tout enfant atteint d'autisme peut progresser et que ce n'est pas parce qu'un enfant est avec autisme qu'il le restera toute sa vie. Et puis, il dit aussi, Joseph Chovanec, que lorsqu'un enfant avec autisme est scolarisé, c'est le niveau de toute la classe qui remonte. Alors, on rappelle que l'autisme s'inscrit dans le spectre le plus large des troubles envahissants du développement en France. Près d'un enfant sur 100 est diagnostiqué autiste, un handicap qui se manifeste par des altérations de communication et des interactions sociales. Anne Renard, bonjour.
Bonjour Martine, merci pour cette invitation.
Alors, on vous a diagnostiqué il y a un peu plus de 3 ans un trouble autistique chez Romain, votre enfant âgé à l'époque de 30 mois je crois, hein. Je suppose que cela a été une véritable bombe pour vous. Alors, je vais dire, je modère quand même mon vocabulaire parce que je vous dis que dernièrement j'ai assisté donc à une conférence de Joseph Chovanec et je pense que bon, il faut absolument, il est sur YouTube, il faut absolument l'entendre et l'écouter cet homme parce que c'est formidable. Alors, mais bon, pour vous, je suppose que ce fut le point d'un départ d'une remise en question à la fois pour sa scolarisation, mais aussi pour son quotidien, c'est-à-dire son environnement, parce que quand même, il faut faire avec.
Voilà. En fait, l'autisme, c'est un trouble neurodéveloppemental. Ça veut dire qu'à un moment donné, le développement de l'enfant s'est trouvé altéré. Nous, à la naissance, Romain n'avait strictement rien, on n'a rien vu, jusqu'à ses 18 mois. Donc là, à partir de là, on va dire on a eu quelques petits signes, on part sur beaucoup de pistes, des pistes auditives, des pistes, voilà, l'arrivée du petit frère, ça a ralenti son développement. Mais en fait, au fil du temps, on s'est rendu compte que non, c'était pas ça. Donc on a eu en fait un diagnostic qui a été posé à ses 3 ans et 3 mois. Et là, en fait, c'est pas une bombe, c'est vraiment une période d'acceptation d'un diagnostic qui est posé. On voit enfin les choses. Après, voilà, c'est une période où il faut commencer à savoir ce qu'on va faire comme prise en charge. Et il faut surtout adapter le quotidien. Et tout le quotidien repose sur une organisation afin que Romain soit le plus serein possible. Voilà. Et après, bien sûr, il y a la période de la scolarisation, mais ça, je pense qu'on va pouvoir en parler juste après.
Alors, justement, nous avons déjà abordé ce thème de l'autisme dans cette émission, mais il se trouve, Anne Renard, que ce handicap est hétérogène. Je veux dire par là qu'il existe autant de formes d'autisme que de personnes atteintes par ce trouble. Et Romain, par exemple, n'a pas de déficit intellectuel. Mais alors, vous dites que dès qu'il perçoit un stimulus extérieur, eh bien, il lâche.
Oui, voilà, bah justement, on parlait de la scolarisation. Au début, il est rentré dans les apprentissages avec quelques aménagements. Et en fait, petit à petit, ils se sont arrêtés. Alors nous, on a remarqué que les apprentissages se sont arrêtés lorsque la classe est passée de 16 enfants à 26. Donc en fait, il s'est retrouvé soumis à beaucoup de stimuli. Donc il a commencé à développer d'autres troubles, mais des troubles de comportement, de fuite, de provocation, des stéréotypies qu'on n'avait jamais vues. Alors en fait, pour lui, c'est une façon de rentrer dans sa bulle et d'ignorer l'environnement qui l'agressait. Les troubles en fait de comportement sont une conséquence directe des troubles de développement. Alors pour l'instant, on ne voit pas de déficit intellectuel. Parfois, bien au contraire, il fait même preuve de stratégie pour justement nous tester également. Mmh. Voilà. Pour l'instant, c'est trop tard pour le savoir. Donc on a beaucoup de choses à faire avant de se rendre compte s'il y a un vrai déficit intellectuel derrière ou pas. Et de toute façon, s'il en a un, grâce, on va dire, aux fonctions cognitives aujourd'hui, on sait très bien qu'on peut passer par d'autres chemins.
Mmh. Voilà. Alors, beaucoup de personnes confrontées à l'autisme nous ont déjà apporté leur témoignage. Ce qui revient souvent, c'est permettre à l'enfant l'accès à l'autonomie. Alors, pour vous, Anne, pour les parents que vous êtes, vous et votre mari, et qui avez pris en charge, qui avez pris les choses en main, on va dire, vous êtes lancé un défi, par exemple, que Romain accède au langage ou reprenne peut-être une scolarité normale?
J'avoue qu'aujourd'hui, le défi, en fait, surtout pour nous, le défi, en fait, qu'on s'est fixé au départ, il reste identique. Lorsqu'on a le diagnostic qui est annoncé, on met tout en œuvre, on met tout de suite une prise en charge en œuvre, justement pour qu'un jour il accède surtout à l'autonomie. Alors c'est sûr que ça passe forcément plus facilement s'il y a du langage derrière. S'il y a une scolarité normale, oui, mais bon, on sait très bien qu'il y a plein d'autres voies que la scolarité normale. Mais vraiment, ce qui l'a fait progresser aujourd'hui, c'est la prise en charge en orthophonie dès le départ, parce que c'était une prise en charge ludique. Donc dans le ludique, on retrouve toujours la forme du jeu, tout simplement, avec une relation de un pour un, individuel, et il avait la chance d'être pris en charge deux fois par semaine. Et c'est vraiment grâce à ça qu'on a un peu de langage qui s'est mis en place, mais on est conscient aujourd'hui que pour lever les troubles de développement, il lui faut absolument une méthode particulière, en fait. Il faut lui remettre tout le développement qu'il s'est trouvé altéré entre 0 et 18 mois, et ça va lui permettre d'avoir les outils justement pour apprendre, et forcément dans l'apprentissage, avant d'accéder à l'apprentissage, on aura justement des troubles de développement qui seront traités un petit peu et récupérés, notamment tout ce qui est sensorimoteur, et ça lui permettra enfin d'accéder au langage. Un enfant ne va pas accéder au langage vers ses 3 ans, s'il a des retards de développement. C'est logique, hein. Ça, c'est même Dolto l'a expliqué. On va dire c'est très très logique dans le développement de l'enfant et de tous les enfants.
Alors certes, l'autisme doit être pris donc le plus tôt possible, hein, pour que le développement de l'enfant se passe le mieux possible, et c'est un petit peu le cas de Romain. Alors, on a parlé scolarité tout à l'heure, vous m'avez dit que les différentes scolarités n'ont pas permis son épanouissement, mais Anne, et c'est pour cette raison que je disais tout à l'heure que vous avez pris les choses en main, vous avez décidé de vous charger de tout et vous voudriez en quelque sorte revenir au point de départ, c'est-à-dire que Romain se reconnecte tout simplement.
Pour nous, c'est normal en tant que parents de trouver les moyens d'aider nos enfants. On a un rôle éducatif, d'accompagnement, donc ça c'est tout à fait normal. Après, c'est sûr que lorsqu'on se rend compte qu'une prise en charge ne fonctionne plus ou ne fonctionne pas, on l'arrête. Parce que le but, c'est pas non plus de perdre du temps. Et ensuite, on sait très bien, qu'aujourd'hui, c'est des problèmes de développement que Romain n'a pas. Voilà. Et donc, en fait, on a trouvé une méthode, qui est la méthode 3I, qu'on va mettre en place grâce à l'association AEV, c'est une thérapie d'échange et de développement par le jeu. C'est déjà une thérapie qui a été mise en place au sein du CHU de Tours, mais pas de manière intensive, c'est-à-dire que c'était par petites séances. Là, nous, on propose de mettre ça toute la journée. Ça n'enferme pas l'enfant parce qu'il n'y a pas de stimulation. C'est lui qui reste le maître mot du rythme à suivre et de son propre développement. Voilà. Donc, on reprend à zéro. Si on veut, on ne sait pas encore, en fait, où Romain va reprendre de lui-même. Il aura tout à disposition et c'est lui qui va décider ce qu'il va reprendre comme développement, en fait, tout simplement. On le laisse. On le laisse grandir comme un enfant qui vient de naître et qui fait ses propres développements, ses propres connaissances du monde qui l'entoure.
Alors, pour cela, Anne Renard, vous avez besoin d'aide d'autres mamans ou d'aide de personnes qui aiment les enfants et qui auraient un petit peu moins de 2 heures par semaine, on va dire, à consacrer à Romain. Et alors, vous allez nous expliquer, là, justement.
Alors, voilà, en fait, on a besoin de 30 bénévoles minimum. Ces bénévoles vont se relayer toutes les 1h30 à notre domicile dans une salle que nous allons aménager. Ça sera une salle d'éveil, de psychomotricité, voilà, pour reprendre tout ce qui n'a pas été fait entre 0 et 3 ans. Ensuite, on va les former, mais bon, ça reste une méthode très simple au final. Hein, il suffit juste d'aimer les enfants, d'être bienveillant et d'être patient, et voilà, d'avoir 1h30 à consacrer par semaine. Mais on fait quand même une petite réunion de formation et d'information le 27 juin sur l'orgie à partir de 17h15. Et donc le but, voilà, ça sera de donner un petit peu les clés de l'autisme, de donner un petit peu, voilà, où le développement a pu s'arrêter, notamment chez Romain, de faire connaissance de Romain, mais par le biais d'une vidéo, parce que Romain ne pourra pas être présent dans une salle où il y a du monde et du bruit, forcément, trop de stimuli. Et donc voilà, le but vraiment, ça sera ça. Et on remercie aujourd'hui en fait toutes les personnes qui, depuis un mois, ont tracté pour nous, nous ont fait passer à l'antenne comme vous, nous ont fait passer dans les journaux. Et voilà, de toutes les personnes qui se sont déjà manifestées pour s'occuper avec nous de l'épanouissement et du développement de Romain, parce que sans eux, ce serait pas possible aujourd'hui. Et nous, on a vraiment besoin de ça, en fait, aujourd'hui.
Alors, il n'y a pas de condition d'âge ?
Non, c'est 16 ans. On a deux jeunes filles de 16 ans qui se sont manifestées. Voilà, donc 16 ans à 90 ans. Et après, même si on peut pas être dans la salle avec Romain, parce que voilà, on se trouve trop âgé pour se rouler par terre avec lui s'il faut, il y a tellement d'autres choses à faire à côté pour nous accompagner qu'on prend toutes les aides possibles aujourd'hui, parce que ça fait 3 ans, voilà, qu'on est un peu pas seul, parce qu'on a eu notre entourage, on a eu des professionnels autour de nous, on a eu des personnes qui nous ont accompagnés à des moments donnés, mais toute l'aide est bienvenue, parce que l'autisme de l'enfant fait que l'enfant est dans sa bulle, enferme aussi le reste de la famille dans la bulle aujourd'hui.
Mais justement, ça vous permettrait donc de souffler un petit peu, on va dire, et puis de retrouver peut-être votre vie de famille, une vie de famille normale, on va dire, entre guillemets, car il faut le dire que Romain a un petit frère.
Oui, il a un petit frère, c'est Rémi, il a 4 ans et demi. Et pour lui, c'est pas facile, parce que même si on consacre beaucoup de temps à Rémi, on en consacre quand même beaucoup plus à Romain, parce que voilà, les choses se font pas naturellement, il faut un accompagnement tout le temps. Donc pour Rémi, c'est vrai que les sorties à quatre, n'existent pas, les sorties Rémi, papa, maman n'existent pas, parce qu'il faut toujours trouver quelqu'un pour s'occuper de Romain. Donc pour lui, c'est pas facile d'avoir déjà aussi ses parents avec lui tout le temps. Donc on comprend, c'est pas évident. Donc lui attire l'attention avec beaucoup de choses. Tout passe pour aider Romain, ce qui représente vraiment une charge morale importante pour nous, culpabilisante par rapport à Rémi, et aussi financière très difficile, parce que voilà, un seul parent travaille aujourd'hui.
Ben oui, parce que l'autre s'occupe évidemment de Romain. Alors justement, Anne Renard, parce que ça n'arrive pas qu'aux autres, espérons que votre appel sera entendu. Et puis il y a sans doute des bons moments à partager avec Romain, des moments intenses, des moments merveilleux aussi. On a peur de l'autisme finalement parce que l'on le connaît mal. Alors il y a une maman qui me disait que redécouvrir le monde avec le regard de son fils est un émerveillement au quotidien. Alors Romain a sans doute beaucoup à apporter. Donc Anne Renard, comment vous contacter pour cette aide précieuse que vous souhaitez ?
Alors déjà, on peut me contacter facilement à mon numéro de téléphone, que je laisse à l'antenne sans problème. C'est le 06 77 63 32 11. On peut nous contacter également sur notre page Facebook qui est Petit Héros en deux mots, avec une majuscule sur Petit et sur Héros. Et ensuite, vous pouvez venir directement aussi à la réunion de formation qui aura lieu le 27 juin à 17h15 à la Maison des Associations à Lorgy. Voilà.
Voilà, donc on répète bien, le 27 juin à la Maison des Associations de Lorgy. Lorgy, c'est près de...
De la Bassée.
Près de ?
De la Bassée, en fait.
Oui, voilà.
La Bassée, voilà, c'est du côté de la RN 41, derrière Illy, derrière Fétubert, derrière un peu tout. Ça dépend de quel sens on vient, mais bon, on est à 5 km de la Bassée à peu près, voilà.
Voilà, et toutes les bonnes volontés seront accueillies à bras ouverts. Donc, on redonne votre numéro de téléphone 06 77 63 32 11. Vous avez un mail, je suppose ?
Oui, donc le mail c'est JRWIART 2-6 anne@orange.fr.
Voilà. Donc je rappelle 06 77 63 32 11. Eh bien écoutez Anne, j'espère que vous serez entendue, parce que c'est vrai que bon, il y a quelque chose à faire, c'est vrai qu'on a envie de vous aider sur ce coup-là. En tout cas, merci Anne, on a envie de vous dire bon courage, surtout avec la récompense de voir votre enfant s'épanouir.
Oui, mais on est certain d'être sur une bonne voie, et puis voilà, on sait très bien que de toute façon, il faut avoir beaucoup d'espoir pour ces enfants, qu'ils soient porteurs de particularités ou pas, et c'est ça, on va dire, le moteur de la vie, tout simplement, et voilà, le but pour nous, c'est qu'ils soient heureux et épanouis, tout simplement, et le reste de la famille aussi, parce que tout passe par un équilibre général, en fait.
Tout à fait. Merci Anne.
Merci Martine.
Et puis peut-être vous donnerez, peut-être que vous pourrez nous donner des nouvelles en septembre, en octobre.
Bah écoutez, dès qu'on va mettre la thérapie en route au mois de septembre, régulièrement on va donner des nouvelles, déjà via notre page Facebook, et on va essayer également de faire partager, on va dire, quelques séances de jeu, parce que voilà, c'est important de voir ce qui se passe. C'est la méconnaissance aujourd'hui de la thérapie qui fait que voilà, en France, on ne passe pas par ce genre de thérapie, mais bon. En France, on préfère soigner les symptômes que traiter les causes.
Et oui.
Et aujourd'hui, l'autisme, c'est une cause développementale avant tout, pas une cause comportementale. Voilà.
Merci Anne.
Merci beaucoup. Bonne journée.
Bonne journée à vous.
De salle qui bradait ses dentelles sur mon âme en sursis, qui tricotait ma vie, toi qui peignais le monde de tes ailes déployées, à ma blanche colombe, où es-tu donc passé quand le soleil s'endort au creux des vagues, mon cœur y va et je me jette à l'eau si le silence est tard. Seul sur le sol, inconsolable, je recherche les mots. Si j'avais la combine, la formule magicienne, je me ferais comptine pour que tu me reviennes. Mais je n'ai pas le remède pour soigner ces blessures. Tout mon corps te regrette et ma voix te susurre. Mais quand le soleil s'endort au creux des vagues, c'est tard, seul sur le sable, inconsolable, je recherche les mots. Toi, mon innocence, ma belle insouciance, où t'es-tu donc volatilisé? Je pleure en silence, le poids de l'absence. Le soleil s'endort au creux des vagues, mon cœur divague et je me jette à l'eau. Si le silence est d'or, seul sur le sable, inconsolable, je recherche les mots. Quand le soleil s'endort au creux des vagues, mon cœur divague et je me jette à l'eau. Si le silence est d'or, seul sur le sable, inconsolable, je recherche les mots. Ta-da, 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 dam, 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 da. Ta-da, 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 dam, 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 da. Ta-da,
c'est là pour terminer cet entretien avec Anne Renard. Eh bien voilà, pour l'air du temps, en prochaine édition, lundi prochain, mais dans sa formule vacances, tout de suite après la pub, Kaléidoscope, avec ses chansons et sa musique. Artisan.